Comment éviter des scandales alimentaires comme ce fut le cas avec l'affaire Lactalis fin 2017? 37 nourrissons ont été atteints de salmonellose après avoir consommé un produit pour enfants fabriqué par Lactalis. De nombreux dysfonctionnements sont à l'origine de cette contamination. Le processus de retrait a été chaotique. Conséquence, ouverture d'une enquête judiciaire et création d'une commission d'enquête parlementaire. Elle a mené une trentaine d'auditions d'avril à juin. Elle a remis ses conclusions hier. Meilleur contrôle des industriels, interlocuteur unique pour les crises sanitaires, révision des procédures de retrait-rappel. Voilà les principales pistes tracées par cette commission. Nous sommes tous des consommateurs. Vous voulez en savoir plus sur ce travail des parlementaires, sur ce qui va effectivement changer dans le futur pour éviter une nouvelle affaire Lactalis? Appelez-nous 01 45 24 7000. Nos invités pour vous répondre, Karine Jacquemart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de Foodwatch France, une organisation qui se bat pour une alimentation sans risque, saine et abordable. Marion Guillou, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente du conseil d'administration de l'Institut Agrinium. Vous êtes experte des questions de sécurité sanitaire. Et puis Grégory Besson-Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Député La République En Marche de l'Aube, rapporteur de la commission d'enquête chargée de tirer les enseignements de l'affaire Lactalis.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
D'abord, question d'actualité immédiate pour Grégory Besson-Moreau, député La République En Marche. Emmanuel Macron doit-il licencier son collaborateur Alexandre Benalla, accusé de violence sur un manifestant le 1er mai?
Je vois qu'on démarre l'émission sur les chapeaux de roue, en tout cas.
L'actualité immédiate.
Effectivement, alors, déjà, il y a une enquête qui a été ouverte auprès de l'IGPN. Le parquet de Paris s'est saisi aussi de ce dossier. Quand on prend du recul, moi je trouve que ce geste est effectivement extrêmement violent. Maintenant, il faut que justice se fasse. Moi, je crois en la justice de notre pays. Donc, je laisse l'enquête avancer et que la justice prenne les décisions qu'il y a à prendre.
Donc, vous, en tant que parlementaire, vous estimez que Alexandre Benalla est bien actuellement à l'Élysée. Il travaille actuellement là-bas. Il est toujours à l'Élysée.
Moi, en tant que parlementaire, je me dis que je dois avoir confiance en la justice de mon pays, donc je pense que l'enquête doit avancer. Je n'ai pas de position à prendre puisque je ne fais pas partie de cette enquête.
Mais vous n'avez pas une opinion personnelle, vous, élu du peuple?
Si, j'ai une opinion
face
personnelle.
Face à cette vidéo, face à l'action de cet individu?
J'ai une opinion personnelle et je vous l'ai dit, moi je trouve que ce geste est extrêmement violent. On l'a vu frapper un homme, on l'a vu maltraiter une femme. En aucun cas, la violence doit prendre dessus sur quoi que ce soit. C'est mon opinion.
Une mise à pied de 15 jours, vous n'avez pas le sentiment qu'il s'en tire bien, Alexandre Benalla?
Il y a des règles à suivre. S'il n'a pas suivi les règles, la justice doit le sanctionner, et sévèrement.
Vous vous souvenez, Aquilino Morel, c'était un conseiller très proche de François Hollande. Il avait été renvoyé très vite pour avoir convoqué à l'Élysée pour lui-même un cireur de chaussures.
Moi, je pense que on doit attendre les résultats de cette enquête. L'Élysée prendra, je pense, les bonnes décisions, j'en suis persuadé. Mais par contre, il faut que ça se fasse extrêmement vite. Je pense que c'est un sujet qui touche tous nos concitoyens. On doit agir très très rapidement. L'Élysée doit agir très rapidement et le parquet de Paris doit agir très rapidement.
Et
la justice doit être rapide.
L'Élysée ne fait rien.
C'est arrivé ce matin. L'IGPN a déjà été saisi. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Vous savez, pour des actes de violence, parfois c'est beaucoup plus long.
Votre collègue Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, disait cet après-midi, Benalla n'a rien à faire à l'Élysée. Il faut qu'il s'en aille. Que fait-il là? Pourquoi reste-t-il? Doit-il démissionner?
Ce sont les propos de Jean-Christophe Lagarde. Moi, je pense qu'on doit agir très très vite. On doit très très vite se saisir de ce dossier-là. Et je suis persuadé que le dossier va être traité dans les plus brefs délais, en tout cas.
Grande prudence, hein?
C'est pas de la prudence. C'est juste que ne pas confondre vitesse et précipitation.
Tout de suite, on revient à notre sujet ce soir, les suites de l'affaire Lactalis avec Jean en Corrèze. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
On écoute votre question.
Eh bien écoutez, depuis mars 2017, un nouveau règlement de l'Union européenne rassemble absolument tous les contrôles dans le domaine des contrôles pour la sécurité des consommateurs, notamment les domaines vétérinaires, santé animale, hygiène alimentaire, phytosanitaire, et puis également tous les contrôles des ce qu'on appelle des fraudes avec les étiquetages et les fraudes en alimentation. C'est pour respecter le principe de la fourche à la fourchette. Dans ces règlements, ce règlement regroupe déjà l'ensemble des règlements qui avaient été produits par l'Union européenne et auxquelles doivent répondre, bien sûr, et mettre en place les contrôles nécessaires, les oui. États membres.
Quelle est votre question, Jean ?
Dans certains domaines, la France fait ce qu'elle peut, bien oui. évidemment, mais manque certainement crûment de contrôleurs, et notamment, il y a pour cela, à l'intérieur de ces règlements, ce qu'on appelle les redevances. C'est les redevances sanitaires qui sont prélevées et qui sont obligatoires et que les États membres doivent prélever. Alors, oui. en étant un ancien fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, je sais très bien que ces redevances ne sont pas ni très bien perçues, ni à la hauteur de ce qui pourrait être, qui est demandé par l'Union européenne et de ce qui pourrait permettre de faire ces contrôles. Ma question, la première, c'est est-ce que maintenant l'administration française et notamment le ministère de l'Agriculture va prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les mesures réglementaires. Oui. Il y en a qui doivent être prises tout de suite et puis
bien.
Jusqu'au 29
Jean,
avril 2022.
On va vous répondre, Jean. On va vous répondre. Vous aviez dit une question, la seconde. Allez-y, mais pas trop longtemps parce qu'il y a beaucoup
Alors,
d'appels.
La seconde, c'est que pour répondre à ces règlements, oui. La plupart des États membres mettent en place une agence ou un office qui regroupe l'ensemble de ces contrôles que je viens de vous énumérer.
Oui.
La tutelle ministérielle ne se pose pas trop. La plupart du temps, ce sont des tutelles, des co-tutelles, avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement.
Et dans ce domaine-là, Jean, la commission d'enquête parlementaire propose de regrouper tous ces services pour beaucoup plus d'efficacité. Alors, Jean pose dès le départ le problème des contrôles. Qui veut répondre ? Marion Guillou ?
Oui, d'abord, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut traiter les produits d'origine végétale comme les produits d'origine animale, parce que désormais, il se trouve que les modes de production et de consommation font que les accidents sanitaires sont graves sur les produits végétaux comme sur les produits animaux, ce qui conduit à penser tout de suite à une organisation plus unifiée dans le sanitaire, entre l'animal et le végétal. C'est d'ailleurs une des propositions, je crois, de la commission d'enquête parlementaire.
Ce qu'on appelle une police alimentaire.
Une force unique de police de oui. sécurité alimentaire. Alors la redevance, à mon avis, mais là c'est un avis personnel, je n'engage pas le ministère de l'Agriculture évidemment, je pense qu'il faudra créer cette redevance parce que il faut augmenter le nombre de contrôles et pour augmenter le nombre de contrôles, il faudra des moyens supplémentaires.
Grégory Besson-Moreau, rapporteur de la commission d'enquête chargée de tirer les enseignements de cette affaire Lactalis sur les contrôles. On a beaucoup de questions, de courriels. Je vous les lis. Hein. Peut-on se fier à ceux qui effectuent les contrôles ? Qui contrôle actuellement l'hygiène dans les usines alimentaires ? Et qu'est-ce que vous souhaitez comme changement dans ces contrôles dans les usines ? Et pourquoi on nous écrit aussi pourquoi pas plus de contrôles aléatoires réalisés par les services de l'État ?
Alors, ce que je souhaite effectivement, c'est qu'on mette en place cette redevance. Alors, cette redevance, ça s'appelle la 2017-625, pour répondre très précisément. Cette redevance, en fait, elle permettrait de rapporter la somme de 270 millions d'euros qui nous permettrait, par an, qui nous permettrait de renforcer les moyens de l'État. Mon but aujourd'hui, et c'est une des propositions du rapport, c'est de renforcer les moyens de l'État. Pour les renforcer, c'est simple, il faut juste plus d'agents.
Donc plus de contrôleurs.
Plus de contrôleurs.
Oui.
Ces 270 millions d'euros nous permettraient d'embaucher 800 ce qu'on appelle temps plein. 800 emplois temps plein. Donc, entre 700 et 900 personnes à peu près. 700 à 900 personnes, pour information, c'est 20% de plus de contrôleurs. Donc la force de l'État doit se déployer sur le terrain et être beaucoup plus présente. Et effectivement, je vais vous répondre sur la question de faire plus de contrôles. C'est une des propositions. Nous devons tous les ans contrôler les industries agroalimentaires sans faute et faire des contrôles inopinés. On ne prévient pas, on vient à l'improviste et on les contrôle.
Avec des contrôleurs, totalement indépendants des industriels qu'ils contrôlent.
Mais aujourd'hui, les contrôleurs sont complètement indépendants. Moi, je ne souhaite pas avoir des contrôles qui soient faits dans des sociétés privées. C'est le rôle de
Parce
l'État
régalien. Parce qu'on a dit aussi, il faut peut-être contrôler les contrôleurs.
Alors, il y a une différence entre contrôler les contrôleurs. Ce qu'on appelle contrôler les contrôleurs, c'est contrôler les laboratoires. Et une des propositions de mon rapport, justement, c'est de rendre une obligation d'accréditation de l'ensemble des laboratoires qui sont en rapport avec l'industrie agroalimentaire.
Karine Jacquemart, je rappelle, directrice générale de Foodwatch France.
Oui, l'auditeur a complètement raison, parce qu'il faut parler de ce contexte européen pour revenir ensuite au contexte national. Donc il y a une réglementation européenne sur l'alimentation très forte qui a fait suite au scandale de la vache folle, donc depuis 2002, et c'est cette réglementation qui existe, qui se décline au niveau national. Mais il y a deux problèmes aujourd'hui. D'une part, elle n'est pas suffisamment mise en œuvre, et c'est pour ça que les recommandations de la commission d'enquête Lactalis sont les bienvenues. Elles ne sont pas suffisantes, mais en tout cas, elles sont bienvenues, elles vont dans le bon sens. Et d'autre part, cette réglementation, tant au niveau national que européen, il faut la remuscler, il faut la renforcer, et Foodwatch, qui est une ONG européenne, en a mis le doigt sur certaines propositions très concrètes. Mais on ne peut pas regarder le niveau national sans le niveau européen, mais la responsabilité de la France reste entière en ce qui concerne la mise en œuvre notamment des contrôles, et la traçabilité pour les entreprises n'est pas suffisante aujourd'hui.
Grégory Besson-Moreau, combien de contrôleurs actuellement en France sont opérationnels pour surveiller la façon dont on fait de l'industrie alimentaire ?
Aujourd'hui, la Direction Générale de l'Alimentation est composée de 4500 agents, et au niveau de la DGCCRF, donc la Direction Générale de l'Alimentation, c'est le ministère de l'Agriculture, oui. Et la DGCCRF, donc la répression des fraudes, c'est le ministère de l'Économie. Donc d'un côté 4500 agents et de l'autre côté environ 500 agents.
Et vous souhaiteriez que tout ceci soit rassemblé ?
Non, je souhaite que les 500 agents de la DGCCRF, donc la répression des fraudes, se focalisent beaucoup plus sur la partie contractuelle et la partie étiquetage des produits. Là, ils sont extrêmement performants. Ouais. Et que la partie alimentation revienne tout simplement au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et donc revienne aussi dans le sein de la Direction Générale de l'Alimentation. De la fourche à la fourchette.
Claude, bonsoir Claude. Merci bonsoir. D'être avec nous.
Bonsoir à France Inter, bonsoir à tous les auditeurs. Oui, ma question est posée pour justement évoquer le système suédois. Vous avez en Suède des commissions de contrôle et de surveillance qui sont nommées par les mairies, qui changent chaque année intégralement, hein, qui sont, on pourrait dire, départementalisées, donc décentralisées complètement. Et ces commissions peuvent pénétrer dans tout lieu, c'est-à-dire une usine, un commissariat, une prison, une maison de retraite le soir, tard même. Elles vérifient, elles font des conclusions, et ces conclusions doivent être corrigées dans les 3 mois. Passé ces trois mois, il y a des sanctions très sévères.
Et vous souhaiteriez que, par exemple, ce système soit appliqué
sûr,
en France ?
Parce que c'est les citoyens directement, c'est les citoyens, et c'est décentralisé. Et il y a simplement les gens qui font partie de ces commissions, qui sont donc changés chaque année, qui sont des gens comme vous, comme moi, peuvent vérifier à tout moment et prennent les décisions, les remarques,
mais Claude,
elles sont pertinentes. Elles
Claude,
sont envoyées devant les tribunaux si la correction n'est pas faite dans les 3 mois. Il y a des sanctions immédiates.
Mais Claude, vous avez le sentiment que ces citoyens ont les compétences pour effectuer des contrôles sanitaires ?
Je le pense, parce que dans ces commissions, ce sont des citoyens quand même qui ont un certain niveau, qui ont évidemment le droit de vote, hein, et ils ont un certain niveau donc d'instruction, et puis donc de ce fait-là, ils peuvent relever et éventuellement faire des prélèvements quand ils constatent une anomalie.
Sur ce témoignage de Claude, Karine Jacquemart.
Oui, deux choses. D'une part, c'est vrai qu'il faut s'attacher à articuler plus d'efficacité entre le niveau local et le niveau national, hein, sur ces questions de contrôle. L'autre chose, c'est que vous avez raison, il faut toujours regarder autour de nous. Il y a des modèles dans d'autres pays européens très intéressants. Il y en a un autre, c'est au Danemark, où il y a une mesure que l'on souhaite voir adoptée en France, qui est de publier l'ensemble des résultats des contrôles officiels faits par les autorités publiques sur les produits alimentaires. Donc ça irait vers de la transparence. Donc continuons à être inspirés des choses positives qui se font ailleurs.
Grégory Son moraux, la transparence.
Alors la transparence, c'est on va
arriver que le consommateur soit parfaitement informé.
Mais exactement, là, ça fait partie d'une des mesures du rapport. Justement, c'est la transmission automatique et obligatoire des autocontrôles faits par les industriels de l'agroalimentaire au service de l'État lorsqu'ils sont positifs. Je tiens à rappeler que ce qui se passait avant, c'est tout simplement, on savait qu'il y avait des salmonelles, on savait qu'on avait des bactéries, mais on ne disait surtout rien à l'État, on se débrouillait pour régler le problème, ou on ne le réglait pas. Dans la loi Egalim, passée il y a quelques mois avec le ministre Stéphane Travert, nous avons déjà mis en place cette automaticité, maintenant on doit le rendre obligatoire, sous un format en plus lisible par le ministère de l'Agriculture, pour une meilleure cohérence et surtout qu'on puisse agir rapidement chez ceux qui ne respectent pas les règles du jeu.
Marion Guillou.
Oui, ce sera effectivement une vraie amélioration, hein, parce qu'actuellement c'était obligatoire lorsque les analyses étaient positives sur des aliments, mais ça ne l'était pas lorsque les analyses étaient positives et potentiellement dangereuses dans l'environnement. Or, c'est ce qui s'est passé chez Lactalis, puisqu'il y a eu des analyses positives dans l'environnement qui n'ont pas été communiquées au pouvoir public à l'époque. Donc je pense que ce sera une vraie amélioration. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait en France des systèmes d'hygiène municipale, hein, des bureaux d'hygiène municipale qui contrôlent, il y en a toujours d'ailleurs dans certaines villes, des bureaux d'hygiène municipale. Et une des choses qu'à mon avis il faudrait le faire, et c'était une des propositions du rapport que nous avions fait avec M. Babuzio, c'est de coordonner l'action des services municipaux et des services départementaux et régionaux de l'État pour s'assurer qu'on contrôle plus au total.
Réaction d'auditeurs sur le site. Mylène, elle nous écrit, le PDG de Lactalis a plaidé l'accident industriel lorsqu'il a été auditionné par la commission d'enquête parlementaire. Il a dit, paraît-il, accident industriel sans responsabilité de personne à l'intérieur de l'usine. Est-ce que, selon vous, c'est un mensonge ? Grégory Besson-Moreau ?
Je ne suis pas là pour juger si c'est un mensonge ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les explications qu'il m'a données, qu'il a données à la commission, ne collent pas, tout simplement. Me dire que des salmonelles se sont retrouvées dans des boîtes de lait pour nouveau-nés parce qu'on a cassé du carrelage, on en a retrouvé sur un manche à balai, c'était quand même les explications du PDG du groupe Lactalis. Voilà, ça ne colle pas. Il devra en répondre devant les juges.
Karine Jacquemart.
Bah justement, parlons des juges. Le fabricant est absolument responsable de s'assurer qu'il ne met pas sur le marché des produits dangereux pour la santé ou non conformes. En l'occurrence, d'un côté, on a les résultats, le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur Lactalis qui amène des propositions intéressantes et qui n'a jamais prétendu et qui ne remplacera jamais le travail de la justice. Foodwatch a porté plainte le 14 février avec des parents en ciblant non seulement Lactalis mais l'ensemble des acteurs concernés. Et il y a d'autres plaintes et on est toujours en attente de la nomination d'un juge d'instruction. Il faut que la justice fasse son travail parce qu'on ne peut plus supporter cette impunité.
Justement, on nous pose beaucoup de questions, je vois, sur le site. Où en est l'enquête judiciaire sur l'affaire Lactalis ?
Alors précisément,
merci.
Pour toutes les plaintes qui ont été déposées auprès du pôle santé du parquet de Paris, c'est le cas de la plainte de Lactalis et de plusieurs familles, nous sommes toujours dans l'attente de la nomination d'un ou d'une juge d'instruction. Ça n'est pas un très bon signal aujourd'hui, je fais confiance dans la justice de mon pays également, mais nous aimerions voir un signal très fort pour casser ce sentiment d'impunité et dire en effet, non seulement on va investiguer pour essayer de comprendre, mais il faut qu'il y ait des sanctions qui soient dissuasives. Il y a eu trop de scandales alimentaires. Je pense à la viande de cheval, je pense à d'autres scandales, sans qu'il y ait eu de sanctions. Et ce sentiment d'impunité vraiment doit cesser.
Marion Guillou.
Oui, heureusement, dans le domaine sanitaire, donc ça n'empêche pas qu'il faut effectivement poursuivre devant la justice. Mais dans le domaine sanitaire, il y a des mesures immédiates. On ferme l'usine, on retire les produits, on rappelle les produits. C'est-à-dire qu'en fait, dans le domaine sanitaire, heureusement qu'il y a des modes d'action directs qui évitent d'attendre le résultat
mais là,
des enquêtes de justice.
L'usine Lactalis en Vendée, on l'a retrouvée...
En Mayenne, oui.
Elle fonctionne toujours ?
Non, elle a repris, mais elle a été arrêtée. Comme vous le savez, la tour en question a été arrêtée et ne fonctionnera plus. Donc vous pouvez, de fait, dans le domaine sanitaire, les services de la DGL, de la Direction de l'Alimentation, peuvent retirer l'agrément sanitaire, peuvent demander l'arrêt d'une usine, ce qui, heureusement, évite d'attendre les délais de justice éventuels.
Karine Jacquemart ?
À condition que les mesures fonctionnent. On a bien vu là que les rappels, par exemple, n'avaient pas fonctionné. Mais surtout, il y a un second scandale, et là j'attire vraiment l'attention, c'est que cette usine de cran de Lactalis est en train de reprendre sa production, y compris de lait infantile, qui n'est pas commercialisé pour le moment, mais c'est l'objectif, alors que les recommandations de la commission d'enquête Lactalis ne sont pas mises en œuvre, le rapport n'est même pas encore publié, et alors qu'il n'y a toujours pas le juge d'instruction pour regarder de très près au niveau pénal ce qu'il s'est passé et comment s'assurer que ces défaillances n'auront pas lieu demain. Donc il n'y a aucune clarté, aucune garantie. Nous appelons vraiment à s'assurer qu'il n'y ait pas de reprise d'activité tant qu'on n'a pas toutes les garanties.
Martial à Limoges, bonsoir Martial.
Oui, bonsoir monsieur, je suis content de pouvoir participer à votre émission ce soir. Je vous remercie de la qualité des émissions. Et tout de suite, ma question, elle est très simple. En ce qui concerne le groupe Vénier, Lactalis, qui est quand même un groupe européen extrêmement puissant, qui va avoir le dernier mot? Est-ce que c'est la commission parlementaire, c'est-à-dire une recommandation d'avoir plus de contrôleurs, donc peut-être plus de fonctionnaires, mais peut-être aussi il faut appeler un chat un chat et savoir si on veut vraiment contrôler ou pas? Ou alors est-ce que c'est l'autocontrôle et c'est-à-dire on laisse faire le groupe Lactalis jusqu'au prochain incident? Que faire de la santé de quelques personnes et notamment des bébés sous le couvert de ministre de l'Agriculture qui est quand même favorable à la FNSEA et aux industries agroalimentaires? Je ne suis pas écologiste, je suis un citoyen lambda, je suis quand même inquiet des dérives. Alors je sais que nous sommes rien en gare de Rennes et que peut-être Monsieur Beignet est tout puissant en Mayenne et ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Réponse tout de suite pour Martial de Grégory Besson-Moreau, député de La République En Marche et qui a donc participé, qui est le rapporteur de cette commission d'enquête sur l'affaire Lactalis.
Alors je pense que Monsieur Beignet, le PDG de Lactalis, n'est en aucun cas tout puissant. Il n'est en aucun cas ni lobbyiste ni Monsieur tout puissant sur le règne du manque du lait. Je pense que la justice fera son travail et lui expliquera exactement là où il a pêché, s'il a pêché. En tout cas, au niveau de la commission d'enquête,
vous allez déposer.
Moi, je vais
une proposition de loi,
une proposition de loi. Qui, si tout se passe bien, sera déposée au mois de mars 2019. Donc j'aurai fini de la rédiger en octobre-novembre pour qu'elle soit déposée au mois de mars.
Que c'est long tout cela, que c'est long.
Mais le mois de mars, vous savez, ça fera un an après le scandale Lactalis. Si vous regardez ce qui s'est passé dans le passé, jamais on a eu action-réaction aussi rapide. Un an, ce n'est rien en termes législatifs. Ça peut paraître énorme pour nos auditeurs, mais en termes législatifs, c'est vraiment très très faible.
Et quelles seront les grandes lignes de cette proposition de loi?
Les grandes lignes, si on continue de parler de M. Beignet, justement, c'est de retravailler les délégations de pouvoir. Car aujourd'hui, un président de directoire n'a pas à répondre s'il y a des problèmes sur les produits qu'il commercialise. Moi, je souhaite aujourd'hui que lorsqu'on est patron d'industrie, si on vend des produits contaminés, on se doit de répondre devant un juge de ce que l'on a mis en circulation. C'est à Emmanuel Beignet, aujourd'hui, d'être face à un juge et de répondre des mauvaises pratiques de son entreprise s'il y a eu mauvaises pratiques.
Jean est en ligne avec nous. Bonsoir. Jean, merci d'écouter l'émission et d'y participer.
Oui, bonsoir. Merci à vous aussi.
On vous écoute, Jean.
Oui, bonsoir. Ma question était simple. Moi, je ne veux pas rentrer dans les polémiques au niveau de l'industrialisation et de l'industrie elle-même. Simplement, au niveau des retraits et de la rapidité des retraits des produits, au niveau du circuit pharmacie, où il y a aussi les restes commercialisés, globalement, ça se fait dans les 24 heures. À peu près 24 heures. Mmh. Et moi, ce qui m'a étonné le plus dans cette histoire, c'est que dans les réseaux commerciaux classiques des grandes surfaces, c'était aussi long et aussi mal fait. Alors que quand même, ils sont très bons pour beaucoup d'autres choses. Voilà, c'était tout, simplement.
Eh bien, ce problème du retrait, ça fait partie des propositions qu'on peut découvrir dans votre rapport.
Exactement, moi j'étais vraiment...
Besson-Moreau.
Exactement, moi j'ai été vraiment stupéfait lors des auditions, car il n'y a eu, et je dis bien, aucun bon élève dans la grande distribution, aucun, ni même dans les pharmacies. Ils ont tous failli à leurs obligations de retrait-rappel. Il y a un réel problème de retrait-rappel.
Pourquoi il y a eu cet échec?
Parce que aujourd'hui, le personnel en interne n'est pas assez formé, parce qu'ils ne mettent pas les moyens et parce qu'ils n'ont pas d'obligations concrètes. Ils se disent au final, le produit a passé la caisse, il est sorti de chez moi, ce n'est plus ma responsabilité. La grande distribution n'est pas là pour prendre une commission sur un produit. Ce n'est pas une poste. On n'est pas là pour mettre un produit en route et puis on prend 2 ou 3% de commission.
Et vous suggérez par exemple un responsable des questions sanitaires dans chaque grande surface?
Exactement. Il doit y avoir un responsable des questions sanitaires et on doit surtout mettre en place un système de blocage en caisse. Un produit qui fait sur lequel il doit y avoir une procédure de retrait-rappel ne doit pas sortir d'un magasin de type grande distribution ou pharmacie.
Courriel d'un auditeur. Imaginons la découverte d'une contamination massive à la suite d'une erreur dans l'entreprise ou une négligence ou une attaque terroriste. Comment on alerte? Comment on retire les produits contaminés? Alors, réponse d'abord Grégory Besson-Moreau.
Très rapide, c'est une des propositions justement c'est une des propositions du rapport, c'est de pouvoir transmettre les coordonnées bancaires, donc les coordonnées téléphoniques des personnes qui ont acheté le produit. Grâce à des nouveaux codes barres, ce qu'on appelle les QR codes, on va être capable de lier la personne qui a acheté avec un numéro de lot et un produit bien spécifique. C'est-à-dire que l'industriel ou l'État sera en mesure de dire « Monsieur ou Madame X a acheté un produit, il est mauvais ». on l'appelle, on lui envoie SMS, surtout ne le consommez pas, ramenez-le nous.
Marion Guillou.
Oui, alors aujourd'hui, heureusement, même sans ces mesures-là, quand il y a une alerte, il y a tout de suite déclenchement d'un système interministériel. C'est le ministère de la Santé qui réunit les gens. Et de fait, ça prévient les opérateurs, ça prévient les circuits de distribution. Ça n'a pas marché totalement, et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que les retraits, parce qu'il y a eu 4 ou 5 annonces successives, donc ça a été un peu le bazar, mais le système d'alerte existe. De fait, c'est Santé Publique France qui a découvert le 30 novembre qu'il y avait des coïncidences d'enfants de nourrissons malades dans différents coins de la France et qui a dit attention, il se passe quelque chose, enquête auprès des parents, découverte qu'il y avait un produit commun et ensuite enquête tout de suite entre, dans la nuit du 2 au 3 décembre, enquête dans l'usine. Donc 30 novembre, on découvre qu'il y a une coïncidence de maladie de nourrissons en France, répartie géographiquement, entre le 2 et le 3 décembre, les gens des services vétérinaires étaient sur place dans l'usine. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a déjà, heureusement, des systèmes d'alerte et des réactions.
Grégory Besson-Moreau.
Moi, je tiens à souligner vraiment la qualité des services de l'État. Ils n'ont en aucun cas, justement, failli à leur mission. Ceux qui ont failli, c'est la grande distribution. Je vais quand même vous dire une chose. Que ce soit Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc, ils ont tous laissé en vente des produits qui auraient dû être retirés. Et pire que ça, certains produits ont été vendus, ils ont été ramenés dans le cadre de les mesures de retrait-rappel par des familles. Eh bien, ces mêmes produits-là ont été remis en rayon et revendus. Nous devons sanctionner pénalement et financièrement ceux qui ne respectent pas les règles du jeu, la grande distribution.
On nous demande sur le site pour les retraits de produits ou les rappels, vous suggérez, paraît-il, des stress tests. Là encore, comment ça peut se dérouler?
Exactement. En fait, ça serait la direction ou la police de sécurité alimentaire qui, une fois par an ou plusieurs fois par an, lancerait une information d'une contamination d'un produit, une fausse information pour voir si la grande distribution réagit bien et retire bien les produits. Si elle ne le fait pas, elle sera sanctionnée.
Karine Jacquemart.
Oui, sur les retraits rappels, c'est extrêmement clair. La responsabilité est entière des distributeurs de mettre en œuvre les retraits rappels, particulièrement quand il s'agit de produits dangereux pour la santé. Leur responsabilité pénale est engagée. Ils font partie des acteurs qui sont ciblés dans la plainte qu'a déposée Foodwatch. Et là encore, il faudra qu'il y ait des sanctions de façon à ce que ça mette tout le monde raccord avec ses obligations et qu'on arrête de voir ce genre de situation se reproduire. Maintenant, je voudrais aussi attirer l'attention sur un autre aspect, parce que la sécurité sanitaire, c'est évidemment ces scandales alimentaires, mais c'est aussi une contamination qui est beaucoup plus sourde, beaucoup plus invisible et qui est en fait toutes les substances chimiques potentiellement dangereuses pour la santé que l'on retrouve dans notre alimentation. Donc pour les auditeurs, c'est important de voir les deux en fait. Il y a les scandales alimentaires de contamination accidentelle à la salmonelle ou autre et il y a les substances toxiques que l'on trouve dans notre alimentation et dont il faudrait qu'on se débarrasse. Par exemple, les résidus de pesticides, les huiles minérales qui sont des dérivés d'hydrocarbures, les perturbateurs endocriniens. Donc c'est peut-être un sujet qui intéresse les auditeurs.
Éric dans le Var, bonsoir.
Bonsoir. Mon intervention va rejoindre un peu ce qui vient d'être dit, parce que moi, ce que je trouve, c'est que je comprends bien que, et je trouve normal qu'on mette la pression sur les industriels, mais il y a quelque chose quand même qui m'étonne un petit peu, c'est la passivité des acheteurs, des consommateurs. Parce que quand on fait ses courses dans de la grande distribution et qu'on n'achète que des produits qui viennent de l'industrie alimentaire, il ne faut pas s'étonner, à un moment donné, qu'il puisse y avoir un problème. Et donc voilà, moi en tant que producteur bio, en végétal, j'ai jamais rencontré de problème quand c'est des productions qui sont à taille humaine, dans lesquelles on respecte à la fois la nature et les clients qu'on a. Voilà, maintenant je doute que l'industrie agroalimentaire ait ce souci du respect de la nature et du respect du client.
Karine Jacquemart.
Mais oui, en tout cas, ce pourquoi Foodwatch qui défend les droits des consommateurs se bat, c'est que l'ensemble des consommateurs aient accès à l'information. Or justement, ce qu'on est en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas savoir, que ce soit en grande surface ou en petite d'ailleurs, vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui quand vous achetez un produit s'il contient des huiles minérales, s'il contient des résidus de pesticides, s'il contient des perturbateurs endocriniens. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une prise de conscience et des actions pour enlever au maximum ces substances potentiellement dangereuses des produits alimentaires et travailler également sur l'information.
Marion Guillou.
Oui, simplement.
Je rappelle, présidente du conseil d'administration de l'Institut Agrinium, experte des questions de sécurité sanitaire.
D'accord, et je présidais un atelier des états généraux de l'alimentation auquel participait ma voisine. Oui, le mode de production est extrêmement important et les consommateurs y sont sensibles. Et donc c'est important de les informer sur le mode de production, qu'il soit biologique, qu'il soit agroécologique, pour qu'ils sachent ce qu'ils achètent. Mais malheureusement, le mode de production biologique n'est pas exempt de problèmes sanitaires. guerre. Les morts qu'il y a eu il y a 2 ans, peut-être, sur les germes de blé, c'était du blé biologique. Le problème d'ergot de seigle qu'il y a eu cette année, c'était du seigle cultivé en biologique. Donc oui, le biologique est meilleur pour l'environnement, par ses pratiques, mais du point de vue sanitaire, ça n'empêche pas d'être à traiter comme tous les produits, c'est-à-dire avec une vraie surveillance sanitaire.
Marlène nous écrit, ne faudrait-il pas, pour obtenir une qualité sanitaire irréprochable, des sanctions financières vraiment redoutables, vraiment dissuasives, il faut les toucher au portefeuille, ces méga-entreprises alimentaires. Grégory Besson-Moreau.
Mais je rejoins totalement cette personne, c'est exactement ce que propose le rapport.
Et ce n'est pas le cas actuellement.
C'est le cas actuellement, mais pas assez fortement. Quand la pénalité est faible, on n'en a pas peur. À partir du moment où la pénalité est extrêmement forte, est extrêmement lourde, et que la communication qui va derrière est extrêmement forte aussi, eh bien, les industriels de l'agroalimentaire ou la grande distribution, croyez-moi, fera beaucoup plus attention.
Et par exemple, alors, qu'est-ce que vous proposez pour alourdir ces sanctions financières?
Eh bien, par exemple, aujourd'hui, lorsque vous avez un lot contaminé, si la grande distribution ne retire pas le lot, l'agent peut très bien verbaliser la palette avec plein de petits produits à l'intérieur qui composent le lot, et ça coûte 1500 euros. Moi, ce que je propose, c'est qu'on applique ça au nombre de produits qui sont sur cette palette. C'est un exemple concret, mais c'est ce que l'on doit faire. On ne doit pas regarder l'ensemble, on doit sanctionner le produit en lui-même.
Et là, on passerait de 1500 euros à...
Vous imaginez, par exemple, Leclerc, qui a laissé 999 boîtes de lait contaminé en vente, multiplié par 1500 euros.
David Abayeux, bonsoir David.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en direct et on vous écoute attentivement, David.
Oui. Moi, ma question, elle portait sur ce qui était fait en amont par les instances... vétérinaire pour les contrôles en fait dans l'agroalimentaire, que ça soit chez les fabricants ou la distribution en fait. Et parce que j'ai une petite expérience par rapport à ça et je voulais savoir si les contrôles étaient inopinés.
Juste un mot, vous dites j'ai une petite expérience. Sans être trop long, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous.
J'ai passé 20 ans dans la grande distribution en fait.
Oui.
Et moi, de mon expérience, un contrôle sanitaire n'a jamais été fait autrement que sur rendez-vous. Donc ce qui laisse tout à fait le temps de nettoyer correctement les bâtiments, de ranger, et voilà quoi.
Marion Guillou.
Alors pour les contrôles sanitaires, je ne vous parlerai pas des contrôles dans la distribution que vous mentionnez. Pour les contrôles sanitaires, donc des usines, ce qu'on appelle les plans de surveillance et les plans de contrôle. Donc si c'est un plan de surveillance, vous faites ça sur l'ensemble des denrées. Si c'est un plan de contrôle, vous ciblez. C'est-à-dire vous allez chez un opérateur parce que vous pensez qu'il y a un problème ou parce que vous pensez que c'est un produit à problème. Donc ça dépend du type de contrôle dont vous avez été l'objet. De fait, les services vétérinaires ont deux modes d'intervention. Les agréments d'usine, c'est vérifier que les processus sont bons, parce que quand le processus est propre, vous avez quand même beaucoup moins de chances d'avoir un produit contaminé. Et ensuite, les plans de surveillance et les plans de contrôle ex post sur les produits finis.
Karine Jacquemart.
Oui, il faut bien insister sur le rôle de chaque acteur, parce qu'il y a quelque chose qui peut surprendre, qu'on appelle les autocontrôles. Donc il y a l'industrie d'une part, les fabricants et les distributeurs sont aussi concernés quand il s'agit de leur marque de distributeur, et ils font des autocontrôles, ils ont cette obligation. C'est important parce que finalement, même si on veut renforcer les contrôles et les ressources des publics, on ne peut évidemment pas avoir un contrôleur derrière chaque usine chaque jour. Mais ça ne doit pas enlever la responsabilité de l'État, des autorités publiques et de ces contrôles dont parlait Marion Guillou à l'instant. Donc il faut bien comprendre que les autorités publiques ont la responsabilité finale de s'assurer que les contrôles sont bien faits et que les denrées sont saines, ne présentent pas de danger pour la santé et sont conformes. Donc il faut que ça reste extrêmement complémentaire et beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui.
On va à Libourne où se trouve Renaud, si je lis bien l'écran de mon ordinateur. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est à vous.
A priori, très rapidement, c'est juste quid du devenir des petits producteurs demain, si on renforce encore les normes qui sont extrêmement déjà sévères et très restrictives, car jamais nous ne pourrons, et je ne suis pas producteur ni de laitage, ni de saucisson ou autre, mais comment pourrons-nous assumer des analyses complémentaires sur des produits qui sont faits en tout petit volume? Or, la réglementation sera applicable à tout le monde et on disparaîtra encore un peu plus vite.
Oui, mais la sécurité sanitaire, c'est pas prioritaire, Renaud ?
Oui, mais alors c'est un choix, et donc favorisons encore l'industrie. Nous avons en France la richesse de produits artisanaux, etc., qui pourront jamais, jamais suivre une analyse sanitaire. Ça coûte extrêmement cher. Si on doit en faire une tous les 5 saucissons, on ne pourra jamais suivre.
Marion Guillou.
Ben c'est là que les guides d'hygiène entrent en jeu. C'est de fait, vous avez raison, on ne va pas demander à un petit producteur artisanal de faire une analyse des points critiques et de mettre en place un système de contrôle qualité, des permanents sur ces systèmes-là. Par contre, les professions rédigent des guides d'hygiène pour les artisans, pour les petits opérateurs, justement pour simplifier la compréhension des règles et pour faire en sorte que, même en étant petit, ils travaillent bien. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'en étant petit, on ne travaille pas bien, parce que le consommateur, il attend quand même toujours que le produit soit sain. Donc, c'est une question de travail interprofessionnel et de rédaction de guides pour les petits opérateurs.
On nous interroge sur le site avec cette question. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle affaire sanitaire, puisque des distributeurs français retirent en ce moment de leurs magasins des produits à base de légumes surgelés fabriqués dans une usine hongroise suite à une contamination à la listeria sur cette affaire en cours, Karine Jacquemart.
Oui, alors là, pour le coup, c'est pas tout à fait comme Lactalis, puisque c'est pas un producteur français, mais effectivement, on a l'information que c'est arrivé sur le marché français. Ça vient d'une production d'une usine hongroise. Il y a eu une alerte européenne sur ce sujet. On est en train de creuser et pour tout vous dire, il semble que là encore, il y ait du retard dans les alertes. On est en train de vérifier ce qui se passe et est-ce que l'information est bien complète? Est-ce qu'elle est donnée à temps aux consommateurs? On sait que les autorités publiques sont en train de publier des listes de produits à retirer. Plusieurs distributeurs sont en effet concernés. J'espère que les leçons tirées de ces derniers mois et des derniers scandales seront prises à temps. Il faut vérifier.
Marion Guillou.
Oui, je trouve que c'est effectivement intéressant de voir ce qui se passe parce que ce sont des maïs, enfin ce sont des légumes surgelés et en fait il faut désormais savoir que les produits végétaux peuvent aussi présenter des problèmes microbiologiques, des problèmes sanitaires. Ça n'était pas l'habitude parce qu'au fond, on ne consommait pas les végétaux congelés de la même manière il y a quelques années. Donc attention, et c'est pour ça que je suis très favorable à la proposition de la commission d'enquête parlementaire d'unifier les modalités de contrôle sanitaire. Au niveau européen, vous parliez d'Europe tout à l'heure, Madame Jacquemart, le règlement européen sur les végétaux a enfin, pour les végétaux, pris la même chose que pour les animaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Eh bien, c'est important parce que ça sera une meilleure sécurité alimentaire en Europe.
Dernier appel, Catherine est en ligne avec nous. Bonsoir Catherine.
Oui, alors bonjour. Je vais essayer d'être rapide hein, parce que c'est la fin de l'émission.
Hélas, oui, il reste plus de 1 minute 30.
Alors, j'ai travaillé pour le groupe Beignet qui s'appelle Lactalis maintenant. Donc, en tant que responsable de laboratoire dans 2 sites différents, notamment un site de poudre de lait à consommation humaine qui était contaminé par une souche de salmonelle.
Oui.
Alors, ce que je voudrais dire, j'ai fini par trouver la source de la contamination. Mais on exportait cette poudre de lait à l'étranger. On était contrôlé par la DSV, la SGS, etc. Et comme c'était le lait UHT, que ce soit les fraudes ou d'autres organismes d'État, s'il y avait quelque chose à cacher, ils ne vont pas vous demander de démonter des palettes entières de lait UHT, ou des palettes entières de sacs de poudre. Donc, en fait, vous les manipulez.
Oui. Donc, conclusion pour vous.
Eh bien, conclusion, moi, bon, je trouve que... Enfin bon, les contrôles
ne sont pas suffisamment forts, ne sont pas suffisants.
À l'improviste, ne sont pas suffisants.
Oui,
Karine Jacquemart. Il devrait y avoir des prélèvements systématiques. Ouais.
Merci Catherine. Malheureusement, vous l'avez entendu, les tops sont là. Il est 20h, Karine Jacquemart, ce témoignage.
C'est très,
très
important, ça nous donne l'occasion de parler de cette dimension internationale. 86 pays ont été concernés par le cas Lactalis. Et donc oui, il faut regarder les choses à l'échelle internationale, mais c'est aussi pour ça que la prévention et les contrôles préventifs sont essentiels avant que justement les produits contaminés ne se diffusent sur tout le marché.
Malheureusement, l'émission est terminée. Ça passe trop vite, je sais bien. Merci à nos invités Karine Jacquemart, Marion Guillou et Kéori Besson-Moreau. Vous écoutez France Inter, il est 20h30.